Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
L'Algérie préside depuis le 11 janvier le groupe des 77 plus la Chine. L'Algérie succède à l'Argentine à la tête de ce groupe, qui est une structure intergouvernementale de pays en développement aux Nations Unies qui cherche à promouvoir la coopération Sud-Sud et leurs intérêts économiques. Créé par 77 pays en 1964, le groupe a grandi et compte actuellement plus de 130 pays membres. Mourad Medelsi, le ministre algérien des Affaires étrangères, était présent à la cérémonie marquant la nouvelle présidence de ce groupe au siège des Nations Unies à New York. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Nasir Abdulaziz Al-Nasser, ont appelé le groupe à mettre son leadership au service de la construction d'un monde durable. Bonjour à toutes et à tous, au micro Jean-Pierre Amissi Ramazani. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Mourad Medelsi, évoque les priorités de l'Algérie à la tête du groupe des 77 plus la Chine.
Le groupe des 77 a des spécificités qui sont les siennes. D'abord, c'est un groupe qui regroupe énormément de pays, 132 pays, et qui sont dans des positions qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, le grand problème qui se pose à chaque fois à celui qui préside le groupe des 77, c'est de faire davantage pour l'unité du groupe. Et donc la première priorité sans doute est bien celle-là, mais l'unité du groupe c'est une priorité, j'allais dire, horizontale. Il faut qu'on la décline par rapport à des priorités verticales, opérationnelles, qui je crois sont assez nombreuses, mais qui peuvent être regroupées par famille de thèmes. Le premier, sans aucun doute, c'est la crise économique et financière mondiale et ses répercussions sur les pays du groupe, et en particulier les pays les moins avancés. Ça, c'est une première priorité. La deuxième priorité, c'est la sécurité alimentaire. Et c'est une priorité qui concerne particulièrement beaucoup de pays africains. La troisième priorité, c'est l'environnement au sens de changement climatique et le développement durable. Et ce sont donc ces priorités-là que nous allons retrouver. Bien entendu, il y a d'autres dossiers qui sont aussi importants les uns que les autres, mais qui vont quelque part se retrouver à l'indicatif d'une des conférences ou de l'autre. Je prends comme exemple la conférence Rio plus 20, où nous allons retrouver tous les thèmes que je viens de vous indiquer, plus d'autres.
Je voulais parler de cette conférence, justement. La communauté internationale donc se mobilise en juin prochain pour Rio, donc la conférence sur le développement durable. Alors, quel devrait être, selon vous, le rôle que devrait jouer donc le groupe des 77 dans cette conférence?
Le groupe des 77 est un groupe qui a des objectifs qui lui sont propres et qui sont des objectifs d'abord de développement. C'est clair que quand vous posez ça comme axiome, toutes les questions qui sont à l'ordre du jour de Rio doivent être envisagées pour ce qui est de nos pays à la lumière de tout ce qui peut être bon pour le développement de nos pays, nous allons le défendre. Alors ce qui est bon pour le développement de notre pays, c'est quoi? C'est d'abord cette injustice qui caractérise un processus de mondialisation qui, bien qu'on lui reconnaisse bien des avantages, est aujourd'hui un processus qui, malheureusement, est encore mal géré en termes de gouvernance. Il produit des crises et ces crises s'ajoutent dans leurs répercussions au sous-développement de nos pays. Comment faire en sorte que nos pays puissent participer à la prévention et à la résolution des crises? Voilà un objectif, par exemple, qui pourrait être considéré comme étant important pour Rio. Le deuxième objectif, c'est qu'on ne se trompe pas de responsable. Les changements climatiques et les gaz à effet de serre, ce sont ceux qui ont produit le développement durablement qui en sont responsables. Ce n'est pas les pays qui viennent à peine à démarrer un processus de développement. Donc qu'on ne vienne pas nous redire ce que d'aucuns ont tenté de faire, que désormais il faudrait que tout le monde paye l'ardoise du changement climatique. Changement climatique est un problème sérieux, c'est un problème planétaire. Il faut qu'on le prenne avec un grand sens de la responsabilité des uns et des autres, mais il est raisonnable de considérer que le principe qui consiste à différencier les pays qui sont responsables et les pays qui ne sont pas responsables, de les différencier en termes de contraintes qui seraient pesées sur leurs épaules à l'avenir. Et on constate aujourd'hui malheureusement que c'est un débat qui n'est pas encore complètement bouclé parce que en dehors du fait que les pays développés eux-mêmes ont quelques réticences à réduire leur développement pour préserver l'atmosphère et préserver le climat, et ils trouvent prétexte souvent que d'autres pays en voie de développement, et parmi eux ceux qui sont émergents, devraient mettre la main à la poche aussi, faire eux-mêmes des efforts de réduction de production de gaz à effet de serre. Alors on est dans une sorte de cercle vicieux. Alors il faut le transformer en cercle virtueux, mais la seule façon de le transformer en cercle virtueux, c'est que nous soyons les uns et les autres meilleurs, c'est-à-dire que nous ayons plus de sens de la responsabilité vis-à-vis des générations qui viennent.
Monsieur le ministre, vous savez, dans les pays pauvres, dans les pays en développement, tout est prioritaire. Tout est prioritaire, qu'il s'agisse de développer l'économie, de développer les aspects sociaux, etc. Tout est prioritaire. Alors, qu'est-ce que l'Algérie, qui préside désormais le groupe de 77, pourrait faire pour rendre plus efficace ce groupe? Est-ce que c'est juste un groupe de pression dont les actions n'ont aucun impact sur le terrain? Qu'est-ce que vous allez faire pour concrètement améliorer donc l'impact de ce groupe sur les économies des pays pauvres?
D'abord, nous n'allons pas travailler seuls, ça c'est clair. Nous allons travailler avec des pays qui sont représentatifs de situations particulières. Il y a les pays insulaires, il y a les PMA, il y a donc des situations qui peuvent être différenciées. Nous allons travailler en développant l'écoute par rapport à chacun de ces groupes de pays. Et pour chacun de ces groupes de pays, nous allons, en développant cette écoute, faire avancer les objectifs que s'assignent ces pays. Et la question qui va se poser, c'est lorsque, à l'intérieur de notre groupe, il y a des intérêts divergents qui tiennent au fait que les pays ne sont pas en mesure de faire le même effort ou les pays ne veulent pas accepter certaines choses que d'autres souhaitent. C'est là où se pose le problème. Et ce problème-là se pose en particulier en ce qui concerne le climat.
Il n'y a pas d'homogénéité dans votre groupe, hein?
132 pays qui représentent 81% de la population mondiale, ça, on ne peut pas désigner cet ensemble-là comme un ensemble marqué par le sceau de l'homogénéité. C'est pas possible. C'est la quasi-totalité des pays qui sont là. Donc c'est une ONU des pauvres, en quelque sorte, qui est là. Et il faut gérer à l'intérieur les défis des pays, mais en même temps leurs contradictions. Et c'est pour ça que le groupe des 77 a eu quelquefois de la peine à avancer. Et donc nous devons rester à la fois ambitieux et modestes.
L'ONU indique que la création du groupe des 77 à la première session de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, a constitué un tournant historique car elle a permis aux pays en développement de définir une plateforme commune pour exprimer leurs préoccupations et défendre de façon consensuelle leurs intérêts économiques. En agissant collectivement, les pays en développement ont acquis une capacité d'influer sur le contenu des discussions internationales qu'ils n'auraient jamais pu acquérir individuellement. Mourad Medelsi, le ministre algérien des Affaires étrangères, donne sa vision des axes principaux de la présidence algérienne du groupe 77 plus la Chine au regard des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement et du G20.
La présidence algérienne va probablement en accord avec les autres, parce qu'il n'y a rien qui puisse se faire sans accord avec les autres, donner 3 ou 4 lignes de priorité sur lesquelles on sait et on sent qu'on est capable de faire avancer les choses. Et il faut donc, en donnant ces priorités-là et en gérant ces priorités, redonner du crédit au groupe. Je vais donner un exemple. L'objectif des ODM à 2015 est un objectif qui est suivi par la communauté internationale, segmenté au niveau de l'ONU, etc. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays africains qui risquent de ne pas pouvoir atteindre des objectifs en 2015. Alors nous sommes à 3 ans, nous sommes à 4 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter le nombre de pays qui ne sont pas capables d'atteindre les objectifs? Ça peut être un objectif en soi. Et on peut travailler sur cet objectif-là et le considérer comme étant un objectif prioritaire. Si on en a 2 ou 3 comme ça à la fin de l'année, on pourra dire, tiens, on n'a peut-être pas tout réglé, mais on a quand même réglé quelque chose. Et l'année prochaine, on fera davantage. L'autre question qui peut nous amener en tant que président cette année, partager une conviction, c'est fait, mais la transformer en mécanisme, c'est ça qui n'est pas fait. La conviction que nous partageons, c'est que les solutions aux problèmes de la crise économique et financière ne peuvent pas se faire uniquement par un groupe, un petit groupe de pays. sans tenir compte des répercussions sur les autres. Ça, c'est une conviction. Mais le modus operandi, le mécanisme, ça, on ne connaît pas encore, on ne sait pas. Donc, on est en train de réfléchir au niveau de cette nouvelle présidence.
Donc, le mécanisme, c'est l'Algérie qui amènera ce mécanisme.
Voilà.
C'est l'Algérie qui pourra trouver ce mécanisme.
Il pourra les mettre peut-être sur la table, mais à la faveur d'une réflexion qui dépasse l'Algérie. Imaginez que le G20 accepte désormais qu'en son sein, il y ait, à chacun de ces sommets, le président du groupe des 77. Est-ce que ce serait une injure à la morale internationale que cela se fasse? Pas du tout. Ça peut être une idée. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Mais ce qui est, par contre, un axe de priorité pour nous, c'est lorsqu'il y a des passerelles entre le Nord et le Sud, il faut travailler à les consolider.
L'Algérie figure parmi les pays du Maghreb qui n'ont pas connu le printemps arabe, un ensemble de manifestations populaires qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010. Les principales causes de ces mouvements à forte dimension sociale sont le manque de liberté individuelle et publique, le chômage, la misère, le coût de la vie élevé, ainsi qu'un besoin d'une vraie démocratie. Alors, pourquoi l'Algérie n'a pas été touchée par ce mouvement arabe et comment ce pays s'adapte au nouveau leadership révolutionnaire qui émerge dans les pays du Maghreb et dans le monde arabe en général? Les explications du ministre algérien des Affaires étrangères, Mourad Medelsi.
Il faut dire à la vérité que le Maroc pas connu la même situation que la Tunisie ou que la Libye, que la Mauritanie n'a pas connu la même situation que la Libye et la Tunisie. Donc au Maghreb, on a deux pays qui ont connu ce que vous appelez le printemps, c'est la Tunisie et la Libye. Bien sûr, l'Égypte, mais déjà on est un peu au-delà, c'est la Syrie et j'en passe. Moi je crois que la question que vous posez en appelle une autre. Pourquoi il y a eu le printemps dans ces pays? Il y a eu le printemps dans ces pays pour des raisons très importantes. Dans ces pays, et pendant longtemps, le pouvoir était entre les mains d'un nombre de personnes extrêmement limité. Ça, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas de la Libye, c'est le cas d'autres pays. L'autre observation que l'on peut faire dans ces pays qui ont connu le printemps, c'est que la population n'avait pas la possibilité de s'exprimer librement. La liberté d'expression, c'était une liberté tout à fait relative, et les gens ne pouvaient pas donc participer, même pas par la parole, par l'expression. Indépendamment du fait que chacun de ces pays a connu des problèmes économiques financiers qui ont aggravé les tensions sociales. En Algérie, le pouvoir n'appartient pas à quelqu'un. Le multipartisme existe depuis 1988. Nous avons 21 partis politiques qui sont à l'Assemblée. Nous avons 5 partis politiques qui sont au gouvernement. Parmi les 21 partis qui sont à l'Assemblée, il y en a quelques-uns qui sont d'obédience islamique. Et au gouvernement, depuis 12 ans, il y a des ministres qui viennent d'un parti islamique. En Algérie, vous avez la liberté de la presse la plus large que vous puissiez imaginer. Et en tous les cas, elle est tout à fait singulière, et dans le monde arabe et dans le monde africain. Puis l'Algérie, ces dernières années, a beaucoup avancé. C'est un pays qui était endetté, il est maintenant excédentaire. C'est un pays qui était lourdement atteint par le taux de chômage. 30%, maintenant elle l'a réduit à 10%. C'était un pays qui avait un taux d'occupation des logements qui dépassait 7 à 8 personnes par logement. Maintenant nous sommes à 5. C'est un pays donc qui a beaucoup avancé. Tout ceci explique que nous soyons installés dans une stabilité, ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de faire toujours mieux. Et si le printemps arabe a eu un effet positif sur nous, c'est lorsqu'il nous a amenés à faire plus vite un certain nombre de réformes.
C'est sur cette note que s'achève Escale sur l'Algérie qui préside depuis le 11 janvier le groupe des 77 plus la Chine. Le G77 est une structure intergouvernementale de pays en développement aux Nations Unies qui cherchent à promouvoir la coopération Sud-Sud et leurs intérêts économiques. Notre invité Mourad Medelsi, le ministre algérien des Affaires étrangères, a expliqué les priorités de son pays à la tête de ce groupe. Escale est un magazine de la radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Frédéric Chouanière et de Rosie Star. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.